Chapitre 11.
Illogisme social.
Le jour finissait. Les étoiles, ces doux regards des nuits d'été, s'entr'ouvraient dans le ciel pour sourire aux amoureux. Marcel et Lucien étaient assis sur leur terrasse, l'un des jardins suspendus de notre moderne Babylone, et la brise glissait, attiédie, sur le sein des roses, ces belles amoureuses, les plus femmes parmi les fleurs, car elles ont, entre toutes, la grâce et le parfum, et la brise embaumée faisait frissonner la chevelure de Marcel, qui abandonnait câlinement sa tête sur la poitrine de Lucien enivré. « Nous sommes bien ici, » murmura Marcel, en laissant épanouir dans son regard tous les sourires de son cœur. « N'est-ce pas, cher ? Eh bien, veux-tu me raconter ta vie, car je n'en sais encore que quelques épisodes ?» Mais ce sera long, ce récit-là. Qu'importe, la nuit est à nous, et les longueurs d'une histoire ont bien leur charme quand une tête de femme repose sur notre cœur. Elle se souleva à demi. Elle se recueillit un instant. Elle dit à Lucien « Embrasse-moi !» Puis elle commença. Malgré son étrangeté, ma vie fut modeste et simple, plutôt penseuse que mouvementée, une existence à mi-côte se frayant péniblement un sentier solitaire sur la pente d'un escarpement entre un vieux principe et les abîmes de l'avenir. Principe que la pensée ébranle, que les préjugés défendent, mais il ne faut qu'un coup de vent pour déraciner les lianes qui soutiennent cette ruine et l'empêchent de s'écrouler. Alors une société nouvelle, qui lentement se forme, sortira du chaos. Révolutionnaire. Cette révolution se fera sans crise, sans cataclysme, par la seule force des choses, comme au printemps, les jeunes pousses écartent les feuilles sèches. Mais ceux qui arrivent à la vie pendant ces heures d'agonie et d'enfantement souffrent affreusement du manque d'équilibre social, des roulis de ce vieux monde qui marche cependant, quelque secoué qu'il soit par les réactions. N'aurais-tu point, reprit Lucien en souriant, présidé par hasard un club féminin aux heures orageuses de 48. Pourquoi n'aurais-je pas aussi porté le mousquet dans la garde mobile? Je te le répète, je pensais, j'attendais, je rêvais en des jours meilleurs. Car la femme ne se dépouillera jamais de sa timidité, elle est inhérente à sa nature, et voilà pourquoi, peut-être, elle attend depuis si longtemps. Quelque hardie que soit sa pensée, pour qu'elle avance, il faut que l'homme l'appelle, il faut qu'il lui dise « Et confiance, je suis là ». Alors, se sentant comprise, se sentant soutenue, se sentant aimée, elle se grandit, elle se fait forte, elle devient une individualité. Elle a plus que l'homme l'énergie du cœur et, par sa pénétration, sa finesse, sa lucidité, sa persévérance, son dévouement, elle venge largement ses hésitations de la première heure. La plupart des hommes, et même bon nombre de femmes, ne sont pas encore de ton avis. Pas encore, mais ce temps viendra. Et ton histoire à toi. Tu m'as permis les digressions, j'en profite. Ma naissance, ami, n'a rien d'illustre. Quelques-uns même la trouveraient honteuse. La source de ma vie fut une larme. Eh bien, cette larme, elle va se perdre dans un baiser. Dis, veux-tu continuer ? Ce n'est pas moi cette fois, reprit-elle en souriant, qui me suis rendue coupable de l'entre-parenthèse. Je ne connais pas mon père et je ne tiens point à le connaître. Pourquoi l'aimerais-je, puisqu'il ne m'a point aimée, qu'il n'a jamais pris souci de moi? L'amour des parents pour leurs enfants est un don gratuit. Celui des enfants pour leurs parents n'est que le paiement d'une chose reçue. Je te dirai donc peu de choses de mon père. Mais laisse-moi te parler longuement de ma mère. Sa vie fut l'une de ces vies de femmes souffrantes et troublées, opprimées par l'égoïsme masculin et l'opinion sociale, si souvent illogique. Douée d'une âme ardente, d'une nature impressionnable, elle s'était développée dans un milieu étroit, mesquin, où tous ceux qui l'entouraient la froissaient sans avoir la moindre doutance du mal qu'ils lui faisaient. Absurde comme la plupart des parents, les siens voulaient la faire penser avec leurs pensées, sentir avec leurs sensations, rêver même avec leurs vieux rêves usés et retournés, mais très bons encore, suivant eux, pour deux générations. Aussi trouvait-il fort étrange qu'elle osât voir avec ses yeux, aimer avec son cœur, et il appelait fantasque, folle, romanesque, nec plus ultra de la folie, selon certaines gens. Ils eurent beau dire et beau faire, elle aima quand même la plupart des jeunes filles, sans trop savoir pourquoi elles aiment, attirées par des qualités de surface qui leur prennent les yeux plus encore que le cœur, leur printant les grises, et souvent, elles donnent le nom du premier venu qui les regarde un peu languissamment à ces vagues harmonies, à ces molles senteurs qui montent à leur cerveau. Elle s'écrie « C'est lui qui nous apporte tout cela !» C'était un joli garçon que cet amoureux, à l'aspect séduisant, à la parole facile, à la voix pénétrante. Une matinée d'avril toute pleine de promesses que souvent l'automne ne réalise pas. Les parents de ma mère ne présumaient pas de si loin. Seulement, ils trouvaient que ce jeune homme, n'ayant pas encore de position, était un parti impossible. « Mais il est bon, mais il est beau, mais je l'aime, » disait-elle. « Mais l'avenir, mais les enfants, mais le confort, » reprenait-il. « Tu ne songes point à tout cela. Non, ce mariage ne se fera pas. » Ma mère aurait triomphé sans doute de toutes ces logiques appréciations du bonheur, car elle aimait, et alors le cœur de la femme a une puissance énorme de résistance, si ce jeune homme, en se retirant, n'avait mis fin à ses luttes de famille, ayant compris fort sagement qu'il était trop tôt pour se marier, qu'en attendant quelques années encore, il courait la chance de rencontrer un plus brillant parti, et pour lors de faire une bien meilleure affaire. Il n'était amoureux sans doute qu'au premier degré. Ma mère se nourrit longtemps des amères saveurs de cet amour déçu et refusa plusieurs partis, soi-disant avantageux, qu'on lui proposait. Puis, alanguie par une première désillusion, elle tomba dans cette espèce de marasme moral qu'on appelle l'ennui du cœur, maladie dont souffrent les trois quarts et demi des femmes et à laquelle elles appliquent des remèdes si divers. Pour se guérir, ma mère se laissa marier à un homme pour lequel elle n'éprouvait ni antipathie ni attraction, mais dont la position pécuniaire, qui paraissait solide à première vue, enchantait ses parents. Ce mari, joyeux garçon, bon vivant, lassé de sa jeunesse et sentant le besoin de se ranger, se mariait pour faire une fin. Il laissait à ma mère une grande liberté apparente, liberté d'aller, de venir, de juger en dernier ressort les petits détails de la vie domestique. Mais elle était envahie par les brumes de l'indifférence, mais une compression impalpable engourdissait son esprit et son cœur. Son mari l'intimidait sans qu'elle sût pourquoi. Il l'enserrait dans un imperceptible réseau de railleries où sa pensée avait peine à se mouvoir, où son esprit ne pouvait s'individualiser. Il se croyait de beaucoup supérieur à elle parce qu'il était homme et qu'elle était femme, parce qu'ayant largement usé de la vie, il prétendait la savoir à fond. C'était une nature tout à la fois absorbante et dissolvante. Bref, ma mère souffrait, sans savoir pourquoi elle souffrait. Elle éprouvait une annulation générale qui ne lui laissait ni la faculté, ni la force de se retrouver elle-même. Que de femmes qui, à distance, semblent vivre dans un eldorado conjugal, éprouvent ce qu'éprouvait ma mère. Leur mari n'exerce sur elle aucune tyrannie flagrante. Ils condescendent de même à satisfaire quelques-unes de leurs fantaisies féminines. Mais les pauvres créatures étouffent, elles manquent d'air, elles meurent d'inanition. Au bout de 3 ou 4 ans de ménage, ma mère perdit son mari. Ses premières tristesses affaiblies, tristesses qui furent vraies, car on s'attache toujours, ne serait-ce que par habitude, à l'homme avec lequel on vit, quand on n'en aime pas un autre. Elle éprouva un immense bien-être en se retrouvant libre, ou plutôt en retrouvant la faculté de penser librement. Elle rentrait en possession de son individualité annulée. Son titre de veuve, sa fortune compromise, le sauve-qui-peut de la plupart des amis de son mari, qui la fuyaient parce que sa maison ne pouvait leur offrir les mêmes plaisirs qu'autrefois, la condamnait à la retraite. Elle souffrait de son isolement bien plus que de sa solitude. Elle attendait vaguement que l'avenir vînt résoudre les doux peut-être de son cœur et les curiosités de son esprit. Un homme, jeune encore, mais sans jeunesse morale, parle de cette pâleur que ne colore aucune émotion, à l'œil refroidi, aux gestes étudiés, qu'il essayait en vain de rendre dignes, aux lignes du visage tout à la fois flasques et rigides, à la parole cassante et dogmatique, ayant dans tout lui quelque chose de douceâtre et d'impérieux, venait la voir quelquefois. Il n'avait rien qui pût amollir le cœur, troubler l'imagination, éveiller les sens d'une femme. Aussi ne s'adressa-t-il qu'à son esprit. Il était le premier homme qui lui disait que Dieu l'avait créée, non seulement pour être belle, mais encore pour penser. Il offrait à ses regards des horizons nouveaux. Il engageait à cultiver les steppes de son intelligence que l'homme, par calcul ou par incurie, se plaît à laisser en friche chez la femme, prétendant que tout son charme est dans la stérilité ou le fouillis des plantes folles. Sans l'aimer, ma mère lui était reconnaissante d'avoir deviné quelques-unes de ses souffrances intimes. Ils vécurent longtemps dans ces placides rapports où pourtant l'intimité s'établissait peu à peu. C'était un homme prudent et circonspect en toutes choses, combinant chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements, et ne faisant jamais un pas en avant sans avoir effacé en arrière l'empreinte de son pied. Mais sous cette tranquillité de surface bouillonnait une ardeur sensuelle, d'autant plus impétueuse qu'elle était contenue, et un jour, oubliant sa réserve habituelle, il dévoila à ma mère les orages de cette passion à la Claude Frollo. Elle fut surprise sans être émue, et elle lui dit doucement, mais affirmativement, qu'il aimait seul. La vanité des hommes leur persuade toujours qu'il y a un peu d'amour au fond de cette négation. Et ils attendent, et ils espèrent que tôt ou tard, ils vaincront la femme, ne serait-ce que par lassitude. Alors, se repliant sur un terrain neutre, il lui demanda son amitié, rien que son amitié. Il souffrait, ou paraissait souffrir. Ma mère était bonne, elle se sentit prise de pitié, et, lui tendant la main, elle lui promit cette amitié qu'il réclamait avec tant d'instance et de résignation, sans songer à tout le machiavélisme de ce mot-là sur les lèvres d'un homme, sinon amoureux, du moins désireux. Elle se croyait forte et sûre d'elle-même, parce qu'elle ne sympathisait avec lui que par certains côtés de l'esprit. Il reste toujours un peu de l'enfant dans la femme. Le danger l'effraie et l'attire. Puis c'est une si bonne chose que d'être aimé qu'on n'en veut jamais beaucoup à celui qui vous dit « je vous aime ». Il y a tant de rêveries dans la musique de ce mot-là. Depuis quelque temps, le hasard, car le hasard joue un grand rôle dans les choses de ce monde, avait ramené vers ma mère l'homme qu'elle avait dû épouser aux premières heures de sa jeunesse. Il l'avait laissée jeune fille, il l'a retrouvée femme, c'est-à-dire plus complète pour l'amour, et sa passion d'autrefois s'était soudain ranimée. Elle ne le revoyait plus à travers les doux grisements de la 20e année, elle le revoyait sans illusion, mais non pas sans charme. N'aime-t-on pas toujours un peu l'homme qu'on a aimé beaucoup, et les souvenirs qu'il ramène au cœur dans sa voix, dans son regard, dans la pression de sa main, ne sont-ils pas toujours jeunes, toujours caressants? Mais si le cœur de ma mère avait de doux repliements vers les attaches d'autrefois, son esprit, plus fort, refusait de se nouer à cette intelligence secondaire et allait demander à l'initiateur intellectuel le complément que l'homme des jeunes années ne lui offrait plus. Et l'amour de ces deux hommes, dont l'un s'étayait d'une espérance et l'autre d'un souvenir, chaque jour grandissait. Une coquette les aurait gardés tous deux, promettant sans cesse et ne donnant jamais. Ma mère ne promettait rien, mais elle donnait un peu, et si ce n'était pas assez pour faire vivre, c'était assez pour empêcher de mourir. Ce qui perd les femmes, c'est de toujours vouloir temporiser. Est-ce parce qu'elles sont bonnes? Est-ce parce qu'elles sont faibles? Est-ce parce qu'elles n'osent pas être bravement franches? Cet état de tiraillements et de soubresauts ne peut durer, et un jour, de pitié plus grande, elles donnent un peu, elles donnent encore, elles donnent tout, sans savoir comment cela s'est fait. Et ce fut ce qui arriva à ma pauvre mère. Un soir, c'était un soir d'été, une brise chaude entrait par les fenêtres ouvertes, chargée d'énervants parfums. Il y avait dans l'air comme des tourbillons de tendresses inassouvies. L'homme de science vint voir ma mère. Il lui parla de ses souffrances, il lui parla de son amour. Et pour la centième fois peut-être, elle lui dit « Mais je ne vous aime pas !» Il était haletant, il lui révélait de folles ardeurs. « Je ne vous aime pas, » répétait-elle encore. Alors, se levant par un bond fiévreux, il vint lui serrer convulsivement les mains et lui dit avec une voix d'acier « Adieu, madame, vous ne me reverrez jamais. » Candide, comme une jeune fille, elle crut à cette fausse sortie, elle crut à ce jamais-là. Soudain, elle sentit un vide immense se faire en elle. S'il part, que deviendra son esprit? S'il part, le démon des jeunes amours va la reprendre. Elle ne veut plus lui appartenir, sa volonté chancelle, son cœur s'amollit. Lui s'aperçoit de ses hésitations. Il la presse, il enlace, il la brûle de son haleine. Elle est pâle, froide, brisée, à demi vaincue. « Non, je ne veux pas, » murmure-t-elle. « Partez, partez !» Ce mot, elle le dit trop tard. Il resta. Et le lendemain, l'œil fixe et morne, elle regardait fuir cette orageuse soirée de la veille. Aucun parfum ne lui était resté aux lèvres des baisers qu'elle avait reçus. Aucun doux rayonnement ne lui voilait sa faute. Elle se sentait tombée, car elle s'était donnée, ou plutôt, elle s'était laissée prendre sans aimer. Et le regard de Marcel s'en fut se fondre avec toutes les suavités de l'amour dans le regard de Lucien. Puis elle reprit « Ce n'était pas tout pour ma pauvre mère que cette honte d'elle-même. Elle devait être plus humiliée encore. » Au bout de quelques jours, elle sentit qu'une petite vie se formait dans son sein. Cette petite vie, c'était moi. Alors, au lieu de sourire comme fait la femme qui aime, tout envahie par un double amour, elle pleura. Puis elle fut trouver l'homme qui, profitant d'un moment de défaillance, l'avait ployée sous le joug brutal de ses sens, oubliant que la femme est un être libre et que chez elle, le sentiment domine toujours la sensation. Et elle lui demanda résolument son nom pour le petit être éclos d'une surprise et auquel il devait cependant amour et protection, son nom pour effacer la flétrissure que la société, en recevant la pauvre créature, lui imprimerait au front, flétrissure qui pourrait être une marque lumineuse comme au front de Moïse, de Salomon et du Christ, si la femme concevait toujours dans l'amour, l'amour complet. Il accueillit ma mère avec des paroles d'abord évasives, puis dures et cassantes, qui dévoilèrent toute l'aridité de sa nature envahie par l'orgueil, desséchée par l'étude, désorganisée par un esprit de système, et où la passion sans tendresse, sans amour, avait couru, brûlante et dévastatrice, comme le simoun au désert. Reconnaître cet enfant, c'était se créer une charge, c'était avouer qu'il n'était point exempt des faiblesses de l'humaine nature. Et il appelait force, dignité, esprit de conduite, les lâchetés de son égoïsme. Ma mère pleura, supplia, elle fit appel à l'instinct de son cœur. À quoi bon? Il n'avait pas de cœur. Elle fut vaincue parce qu'elle était femme, qu'elle était faible, dépendante, parce qu'elle n'osait et ne pouvait se plaindre tout haut. Il le savait bien et c'était ce qui le faisait si fort et si superbe. En se plaignant, qu'aurait-elle obtenu? Rien. L'opinion du monde lui aurait été défavorable. Les sceptiques se seraient pris à rire, les vertueux l'auraient anathématisé en s'écriant « Elle n'a que ce qu'elle mérite ». Les indulgents, et le nombre en est mince, auraient murmuré peut-être « C'est malheureux pour elle, mais qui faire ?» La société dit aux hommes « Tentez toujours les femmes ». Elle dit aux femmes « Ne succombez jamais à la tentation, et si vous succombez, vous serez flétries, conspuées. » On les entretient dans une minorité perpétuelle, on ne leur apprend point à vouloir, on ne leur apprend qu'à se soumettre, et on exige qu'elles résistent à l'homme, qu'elles résistent à elles-mêmes, qu'elles dominent et leur cœur et leur sens, et le débordement de la passion masculine, qu'elles raisonnent à l'heure où le raisonnement est si faible, même dans les plus fortes têtes. Seule, abandonnée, vivant dans des transes perpétuelles, craignant à chaque instant de voir son secret découvert, pâlissant sous le moindre regard qui semblait serpenter autour de sa taille, exposée aux insolences et aux indiscrétions d'une domestique, ma pauvre mère fut enfin obligée de disparaître dans l'une de ces maisons qui abritent plus encore les lâchetés des hommes que les hontes des femmes. Et le jour de l'enfantement était venu. À cette heure de souffrance et de lutte physique, toutes les femmes sont entourées, encouragées, aimées même de ceux qui ne les aiment qu'un peu. Elles vont donner la vie en touchant à la mort, et toutes les fibres de l'homme s'attendrissent. Au milieu de leurs angoisses, elles sont heureuses et fières. Elles sourient à cette petite fleur d'amour qu'elles sentent s'épanouir et pour laquelle elles évoquent un rayon de bonheur. Mais quand le regard tombe avec désespérance sur le berceau placé près d'elles, quand aucune parole affectueuse ne les encourage et ne répond au bondissement du petit être qui va quitter leur sein en le déchirant, quand elles se sentent seules à souffrir comme elles vont être seules à aimer, il faut que Dieu ait mis dans leur cœur une grande énergie ou que cette force instinctive qui nous attache à la vie soit bien puissante pour qu'elle résiste au double brisement du corps et de l'âme. Quelque abandonnée qu'elle fût par son séducteur, ma pauvre mère espérait que les cris de l'enfant qui lui était né amolliraient son cœur. Il refusa de me voir. Je n'étais qu'un accident dont il prétendait n'être nullement responsable. L'infâme ! S'écria Lucien. Et c'était toi qui ne voulais pas reconnaître pour sa fille.